Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons donc reprendre notre exploration de l'historiographie des études gathiques. Nous n'en avons plus pour tellement longtemps, puisque nous sommes au début des années 90. Donc, qu'est-ce qui a suivi la publication des textes vieillavestiques que Éric Pirard et moi avions publié entre 1988, je crois, en trois volumes, et 91. Bien, la réception du livre a été mitigée, comme je vous l'avais exposé à la fin du cours dernier. Deux choses pouvaient évidemment provoquer une sorte de rejet. C'était d'abord l'investigation grammaticale, qui, elle, a été très bien suivie, au contraire, dans un premier temps. Ensuite, par contre, ce qui a été rejeté, parfois avec une certaine violence, c'est l'interprétation ritualiste du texte. Et je vous ai fait remarquer que dans la suite de l'histoire, cette réception s'est inversée. C'est l'interprétation ritualiste qui aujourd'hui est très largement partagée, alors que les analyses grammaticales sont ignorées, comme le sont d'ailleurs, je vous le disais, comme elles le sont en général depuis la loi de Kuiper sur le maintien des laryngales. Et j'aurai l'occasion, dans le cours de mon exposé, de vous donner quelques exemples de cette volonté de ne pas tenir compte de nouveautés grammaticales, ce qui me paraît toujours un peu curieux. Mais donc, après quelques années de rejet, les choses sont en voie de progresser à nouveau. Je vous signale, si vous voulez lire les articles peut-être le plus violent qui a été publié contre notre publication, il est dû à Ilya Gershevitch dans la revue Iran de 1995, un gros article intitulé « Approaches to Zoroaster's Gatha ». Il est amusant parce que l'agressivité se voile d'humour, mais ce n'est pas toujours c'est un humour parfois tout de même qui laisse percer une animosité assez profonde. Et vous constaterez aussi, quand on lit bien cet article, que certes il est dirigé contre Pirard et moi, ce sont nos noms qui apparaissent, mais pas seulement. Au-delà de la critique du livre d'Éric et de moi-même, eh bien, c'est finalement tout le développement des études gathiques depuis Helmut Humbart qui est visé. En réalité, c'est une entreprise profondément réactionnaire et dont le but est de ramener les études avestiques en général au temps de la tradition bartholoméenne. C'est un retour à Bartholomé. Cela a fait long feu. Hein, personne aujourd'hui ne défendra plus ces positions-là. Alors, les deux choses qui se sont produites depuis les années 90, c'est un débat, nous en avons parlé durant le cours 2006-2007, je crois, un débat sur l'unité du texte gathique, qui est aussi, vous le verrez, un débat sur l'auteur. Les choses se présentent de la manière suivante. Les textes vieillavestiques, dans notre introduction, reproduisent une hypothèse qui avait été faite en 1963 par Marie-Jeanne Mollet. Il était communément admis, avant Mollet, que l'unité du texte gathique, c'est le chapitre, ou bien la haïti, pour le dire, en avestique même, car le mot est cité par les auteurs de l'Avesta récent. Les gathas sont composés de 17 haïti, 17 chapitres. Haïti. Ces haïti sont groupés en ensemble, en cinq ensembles que l'on appelle gatha, ou bien chant, selon l'hypothèse courante, sur le seul critère de l'uniformité métrique. C'est-à-dire tous les poèmes, toutes les haïti qui sont rédigés dans le même maître sont regroupés dans une gatha. C'est donc un groupement arbitraire. Ces poèmes sont indépendants. Et à l'extrême, comme vous le savez, hein, du Duchesne d'Imain a tenté de leur restituer un ordre chronologique, un ordre biographique. Ce n'est pas la seule tentative en ce sens. C'est la seule qui soit véritablement articulée sur une traduction des Gatha, mais en 1970, un certain Erwin Wolf avait aussi proposé, sans faire lui-même de traduction du texte gathique, de restaurer un ordre chronologique entre les Haïti. Mollet a nié cette représentation du corpus gathique. Pour Mollet, les Gathas sont unitaires. Elles sont homogènes, elles sont unitaires. La mise en chapitre est quelque chose de secondaire. Chaque Gatha représente un tout homogène. Il y a deux arguments pour cela. Et de façon étrange, ceux qui plus tard feront la critique de cette position ne les discuteront jamais. Or, ce sont deux arguments qui sont imparables, parce qu'ils sont formels, simplement. Il arrive qu'un mot qui apparaît dans la dernière strophe d'une Haïti réapparaisse dans la première strophe de la suivante. Bon, ça arrive deux fois. Ça arrive deux fois sur les 17 chapitres. L'autre argument, c'est la réapparition dans chaque gatha, donc dans chaque ensemble, d'un certain nombre de motifs obligés. Comme si l'auteur disposait d'une sorte de canevas qui représente en quelque sorte son cahier de charge. Il doit traiter une fois dans chaque texte un certain thème. Je peux prendre un exemple. Par exemple, il y a une dissertation sur cette force mentale qui est le manyu. Eh bien, un passage sur le manyu, ce qu'on traduit par esprit, mais nous cherchons à être plus précis, eh bien, il y a une dissertation sur le manyu dans chaque gatha, une et une seule, une et une seule. Il semble donc qu'il s'agisse d'un thème obligé. Autre thème obligé, autre motif, c'est la description d'un groupe humain, un catalogue des noms propres, hein, une fois dans chaque gatha, pas deux. Mais dans chaque gatha, ce catalogue est dressé. Nous avons l'énumération d'un certain nombre de noms propres. Voilà deux arguments. Or, en 2002, Almuth Hinz, dans un article paru dans le Bulletin of the School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, et Stephanie Jamison, en 2007, dans quelques conférences qu'elle avait faites, ici même, l'année précédente, ont tenté de restaurer l'autonomie des Haïti contre les arguments de Mollet et de moi-même. Je leur ai répondu en 2007 dans le journal asiatique, après vous en m'être entretenu de ce problème avec vous l'année précédente. Les analyses de Hinz et de Jamison sont fondées sur une sorte de pratique que chaque traducteur n'a pas mené sur les gathas et qui est une pratique d'analyse textuelle. L'analyse de certains ressorts théoriques du texte gathique. Ces tentatives de voir en quelque sorte comment une gatha est fabriquée, quels sont les mécanismes rhétoriques qu'elle met en jeu, remontent avant Humbart, en 1954. L'initiateur de ce type d'étude a été un certain Wolfgang Lenz. Dès 1954. C'est donc une pratique ancienne, qui n'est pas discutable, c'est intéressant comme analyse. Humbart l'a adoptée, Humbart a réadopté cette pratique de tenter de voir de quels étaient les modes de progression, le dynamisme du texte gathique, comment cela procédait. Les analyses de Lenz ont été reprises de façon systématique par son élève Hans-Peter Schmidt, qui a publié divers articles sur cette question jusqu'en 1985. C'était donc une tradition d'études bien constituée lorsque Pirard et moi avons travaillé sur les gathas. Nous avons aussi reproduit ces analyses, nous les avons discutées, nous avons fait les nôtres dans le même esprit. Et là, ce qui différencie donc les tentatives de Hinz et de Jamison, c'est de mettre cette analyse au service d'une thèse, la thèse de l'unité de chaque Haïti, de son homogénéité, de son indépendance vis-à-vis des autres. Alors, les deux grands procédés rhétoriques dictent la progression du texte gathique sont d'une part ce que l'on appelle la concaténation lexicale. C'est le phénomène dont je viens de vous parler. C'est la répétition d'un mot, strophe par strophe, généralement deux strophes, parfois plus. Un mot comme maniou, par exemple, tend à former zone, c'est-à-dire qu'il se répète sur un nombre de strophes beaucoup plus élevé. Le nombre est beaucoup plus élevé que généralement. Donc, c'est ce qu'on appelle la concaténation lexicale. C'est évidemment un procédé de la littérature orale. C'est aussi un aide-mémoire, cette répétition de mots. Ça aide naturellement le récitant à prévoir le cours de sa récitation. L'autre procédé est la composition en miroir, ce que les anglophones appellent la ring composition, la composition en anneau. Je crois qu'en français, on préfère l'expression composition en miroir. Il y a aussi donc un jeu de correspondance lexicale, mais ce n'est pas la répétition strophe en strophe, au contraire. N'est-ce pas, un mot qui apparaît dans la première strophe est répété dans la dernière, apparaît à nouveau dans la dernière, dans la seconde strophe, l'avant-dernière, et ainsi de suite. Donc la composition en miroir, ce qui donnera comme théorie la plus sophistiquée, celle de Martin Schwartz, qui vous l'a exposé ici il y a quelques années lors d'une conférence, et qui est celle des références croisées, mais si vous le permettez, je ne vous exposerai pas cette hypothèse-là, parce que de toute manière, elle est sans incidence sur le sens que nous pouvons accorder au texte. Alors, ce n'est pas peut-être le lieu d'en faire la critique pour l'instant. La ring composition est liée au débat sur la question de l'auteur des gathas, de la manière suivante. Si, le Yasna 28, c'est la première Haïti. Elle a fait l'objet d'un examen extrêmement précis, à la fois de Hinz et de Jamison, pour mettre en lumière les deux faits suivants. Il y a composition en miroir. Le Yasna 28 est stylisé par la ring composition. Je prends l'exemple, c'est 11 strophes. Ah oui, pour qu'il y ait vraiment une composition en miroir, il faut un nombre de strophes impair. Sinon, ça ne marche pas. Or, donc la première strophe contient une mention de paourouya. Paourouya est l'adjectif qui signifie premier. Eh bien, le même paourouya réapparaît dans la dernière strophe, la onzième, l'exemple de composition en miroir. Donc, il semble qu'il y ait délimitation du poème. Un poème construit comme ça doit être autonome, il doit être complet en soi, il doit être indépendant des autres. Dès lors aussi qu'il y a composition en miroir de ce type, une strophe particulière va revêtir une grande importance. Nous sommes dans une structure impaire. La strophe centrale, ce que l'on appelle en rhétorique l'omphalos, l'omphalos du poème, présente une importance particulière. Elle n'est plus soumise à la construction en miroir, puisqu'elle est isolée, elle est seule, comme strophe médiane. Or, Yasna 28.6 mentionne le nom de Zarathoustra. Zarathoustra est nommé, mentionné dans la sixième strophe. Voilà la structure. Pour Hinz et Jamison, cette situation à l'omphalos d'un texte composé en miroir équivaut à une signature. Bon, c'est fondé sur certains faits de la littérature grecque, les poèmes de Pindare, par exemple. Hein. On va donner des exemples, peut-être certains poèmes védiques, hein, certains poèmes védiques où le poète se nomme, hein, le poète Vasishta, par exemple, hein, Vasishta. Hein. Je ne parlerai pas avestique, mais sanskrit, c'est en védique Vasishta qui est l'auteur de beaucoup d'hymnes du 7e livre du Rig Veda et qui se nomme volontiers dans ses poèmes et qui mentionne son nom aussi avec des trucs, hein, avec des trucs rhétoriques fort semblables à ceux-ci. Bien, alors, que faire? La Haïti ou la Gata? Bien, je crois qu'il faut voir les choses. Je ne sais pas pourquoi la solution la plus simple n'a été retenue par personne, par moi pas plus qu'un autre à ce moment-là, mais pourquoi ne pas demander le renseignement aux auteurs de l'Avesta récent, qui sont eux beaucoup plus proches des Gata que nous ne le sommes, et qui ont serti le texte gathique. Le texte gathique n'arrive pas comme cela, comme un bloc homogène dans le Yasna, non. Il est soigneusement orné d'introductions, de conclusions, d'insertions de chapitres en récent aussi. Le texte du Visprat, hein, ce livre, ce complément au Yasna que je vous ai mentionné, un texte du Visprat est inséré après chaque Haïti. Lisons ces textes tout simplement et je crois que la réalité va apparaître sans aucune ambiguïté. Nous avons tous raison, n'est-ce pas ? Les gathas sont des ensembles homogènes, elles sont l'unité, et les haïtis sont la sous-unité. Les haïtis ne représentent pas un découpage arbitraire, comme le disait Mollet, comme je le disais moi-même dans l'introduction des textes vieilles avestiques, ça n'est pas arbitraire. Elles constituent une sous-unité du texte de la gatha. Il faut bien le voir, n'est-ce pas ? La concaténation, qui est l'un des deux procédés rhétoriques, renvoie à une succession logique de Haïti en Haïti. Par exemple, le troisième Haïti gathique, le Yasna 30, la dernière strophe comporte le mot Urvata. Oh, c'est une sorte d'alliance interpersonnelle, Vata. Eh bien, le même mot apparaît dans la première strophe du Yasna 31. Donc, les Haïti constituent une unité, mais elles ne sont pas indépendantes. Elles sont une sous-unité d'une unité plus vaste qui est la gatha. La concaténation y renvoie, et par ailleurs, la construction en miroir, elle, renvoie à l'unité de chaque haïti à l'intérieur de la gatha. Les deux arguments exercent ainsi leur poids. Et nous pouvons d'ailleurs aussi faire place, dans cette mesure-là, à l'argument des motifs. Des motifs obligés. Alors, que penser de l'incidence de cette analyse sur la question de l'auteur des gatha? Vous savez que j'ai écrit dans l'introduction des textes vieilles avestiques et encore plus tard, très souvent, que je ne pensais pas que Zarathoustra puisse être l'auteur des gatha. Je disposais pour cela, je vais dire, l'argument me paraissait le suivant. Un auteur dit « je », parfois il dit « il peut parler de lui-même à la troisième personne. Mais je faisais l'observation que nous ne trouvons, sauf deux fois, mais ce sont des discours rapportés, ce sont des discours rapportés par quelqu'un d'autre, clairement, les gatha ne disent jamais « moi, je, Zarathoustra ». Jamais. Vous n'irez jamais cela dans les gatha, sauf dans un discours rapporté. Vous aurez toujours « il, Zarathoustra », à la troisième personne. Bien sûr, la troisième personne, ça ne veut rien dire. C'est pas, les poètes védiques font de même. Ils parlent de même à la première ou à la deuxième personne. Nous avons tous lu « La guerre des Gaules de César » et « Les mémoires de De Gaulle hein ». Nous savons bien qu'un auteur parle de lui-même parfois à la troisième personne. Ce n'est pas cela qui est en question, mais c'est la répartition. « Je, Zarathoustra » n'existe pas, « il, Zarathoustra » est permanent. Il y a un « je », hein, il y a un « je », qui est-il, je ne sais pas. Et alors, un autre fait qui me paraissait massivement destructeur, c'était la présence dans ce Yasna 28, dans cette strophe d'Omphalos, justement, d'expression Zarathoustra et nous. Zarathoustra et nous. Coordination entre le nom de Zarathoustra et le pronom de la première personne du pluriel. C'est difficilement justifiable de faire du nom de Zarathoustra, dans ce cas-ci, celui de le comprendre comme je. Hein. Même s'il parle de lui à la troisième personne, c'est quand même curieux. Hein. S'il parle de lui à la troisième personne, peut-il dire Zarathoustra et nous? Ça devient une situation plus embarrassante. Hinz a très bien contré l'argument. Je reconnais tout à fait la force de son argument. L'argument, elle l'a trouvé dans le Yasna 68 de l'Avesta récent, donc dans le Yasna. Yasna 68, c'est l'Avesta récent. Un texte où nous trouvons l'expression suivante. Moi, le Zaoutar. Je vous rappelle que le Zaoutar, c'est le patron de la cérémonie sacrificielle. C'est le grand. Le responsable du sacrifice. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une autorité permanente. Hein. On se distribue les rôles. Les prêtres distribuent les rôles. Il ne faut pas voir ça sous forme de subordonné ou bien de prêtre auxiliaire. Ça n'existe pas. Hein. En réalité, les prêtres se distribuent les rôles dans le collège sacerdotal avant le sacrifice. Et au sacrifice suivant, les rôles peuvent être redistribués d'une autre manière. Mais le Zaoutar est le patron du sacrifice, c'est lui qui a la responsabilité du cursus sacrificiel. Eh bien, dans ce texte, il dit, moi le Zaoutar, et nous, les Mazdéens en général. Donc, il fait une exception pour lui-même en se mettant en évidence du groupe, en quelque sorte. Ça pourrait être le cas ici, sauf que le pronom « je » n'est pas prononcé. Il n'est pas là. On peut éventuellement le réintroduire, l'inclure, le comprendre. Mais c'est un bon argument. Maintenant, je vous dirai tout de suite, je vais laisser cette question de côté. Je crois qu'elle est mal posée. Elle est mal posée, je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit les choses de façon trop simple. J'avais à ce moment, à cette époque ou à l'époque où j'ai travaillé, je crois, une conception beaucoup trop simple du jeu littéraire. N'est-ce pas? Il y a un jeu dans les gathas. Hein? Il faut voir que c'est un personnage en littérature, le jeu. Hein? Ce n'est pas l'auteur, jamais. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'autre. Sauf si l'auteur veut se faire lui-même personnage. Mais ça appartient à la théorie littéraire. C'est une situation complexe. Enfin, il faut se poser aussi la question, qui peut bien parler? Hein? Qui peut bien parler dans un texte comme les gathas? Ce n'est pas si simple. Il faut savoir à quoi sert le texte, il faut savoir dans quelles conditions exactes il reçoit ce que les Américains appelleraient, les anglophones, sa performance. Hein. Donc, dès qu'il est prononcé, dans quelle situation, etc., quels sont les rapports, il faut poser le problème autrement et nous aurons l'occasion d'y revenir, je vous rassure. Donc, je ne débattrai pas de cela pour l'instant avant de faire un examen plus complet. Alors, il y a chez Hinze, en 2002, une autre observation, indépendamment de cette défense de l'unité attique, il y a une autre observation dont j'étais bien conscient, parce que j'avais moi-même, il y a quelques années auparavant, mais sans insistance, repéré le même fait. Donc, je suis entièrement d'accord avec cette analyse, et je puis seulement m'étonner. Pas que, avant Hinz et moi, personne ne s'en soit jamais avisé. J'y vois comme cause la négligence que notre science a manifestée jusqu'à une certaine époque pour les textes dits tout à fait inutiles de l'Avesta récent, entre autres pour le Visprat, pour les compléments du Yasna. Or, c'est grâce au Visprat, ces chapitres de l'Avestique récent insérés entre les chapitres gathiques. C'est d'eux que nous tenons cette information. C'est que pour les auteurs de l'Avesta récent, l'Avesta ancien, Gatha et Yasna Haptankaiti, était ce qu'il est dans les manuscrits d'aujourd'hui. Rien n'a changé. Pour les auteurs de l'Avesta récent, au 7e, 6e siècle avant notre ère, l'Avesta ancien, c'était le nôtre. c'était le nôtre. Les textes, c'étaient les mêmes textes qui se suivaient dans le même ordre, dans le même ordre. L'ordre de succession des textes était le même. Alors, la question de savoir que Hinz se pose, c'est qui a voulu qu'il en soit ainsi? Qui a donné cet ordre à ces textes? Qui les a sélectionnés? Qui leur a donné un certain ordre? Eh bien, pour Hinz, c'est Zarathoustra lui-même. C'est Zarathoustra lui-même, soucieux de laisser à ses adeptes un rituel nouveau, un rituel qui supplante l'ancien, avec lequel il est en désaccord. Et c'est un rituel durant lequel il ne se passe rien, hors la récitation elle-même. Hein, un rituel où l'on ne fait que réciter, puisque selon Hinz, hein, bien entendu. Alors, il y a bien sûr une opposition exacerbée, et nous allons y venir tout de suite. C'est du biographisme exacerbé, il est vrai. Il n'y a pas l'ombre d'un argument pour défendre cette thèse. Il est évident que quelqu'un, à une date très ancienne, avant le VIe siècle de notre ère, a édité les Gathas, et dans un sens plus large, l'Avesta ancien, avec le Yasna Abdankaiti. Mais qui? Alors, avant d'aborder cette question, et tout de suite, je crois qu'elle peut être très vite résolue aussi, je voudrais bien évoquer un autre acquis important des études avestiques des 20 dernières années, et qui, dans un premier temps, semble ne rien avoir avec les Gathas, et pourtant qui sera décisif. À partir de 1998, nous nous sommes avisés que l'Avesta n'était pas, comme le pensait Bailey et à sa suite Hoffmann, un débris. Hein, je vous rappelle la conception de Hoffmann, la conception de l'Avesta qui s'est constituée, je vais dire, entre 1943 et les analyses de Bailey, jusqu'aux analyses de Hoffmann, dont l'état définitif a été acquis en 1989. Bien, l'idée est que l'Avesta est un corpus textuel qui résulte de deux naufrages successifs. D'abord, un naufrage dont nous ne savons rien, à date très ancienne, mais que les auteurs des textes moyens perses identifient comme une destruction due à Alexandre. Ce n'est peut-être pas une historiquement, pour Bailey et Hoffmann, ce n'est peut-être pas Alexandre le responsable, mais pense-t-il, quelque chose s'est passé. Les textes ont été dispersés, d'une manière ou d'une autre. Et menacé d'oubli. Et sous les Sassanides, on va les rassembler, on va les collecter de la mémoire des prêtres, puisqu'on sait désormais que l'Avesta n'a jamais été écrit. On va les collecter de la mémoire des prêtres et on va en faire ce qu'Hoffmann appellera l'archétype sassanide. Première édition de l'Avesta, mise par écrit, hein, archivée. Ça c'est la première restauration qui est concomitante de la première mise par écrit. Et puis, deuxième naufrage. Là aussi, on ne peut pas le situer avec précision. On peut imaginer, bon, situation de rivalité avec l'islam qui s'installe en Iran, que certaines écoles vont disparaître, les textes se perdent, mais nous n'avons pas de témoignage direct d'une telle perte. Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous avons récolté et qui semble être une seconde restauration. Hein. Donc, on a d'abord recollé les débris de l'Antiquité à l'époque sassanide, et une deuxième fois, on va récolter les nouveaux débris de l'Avesta, les débris de l'Avesta sassanide. Donc, il y a deux naufrages et deux entreprises de restauration. Et l'Avesta serait le résultat aléatoire, hein, de la perte des textes et de leur remise en ordre plus ou moins perfectionnée par divers assembleurs. Bien, on s'aperçoit, j'en suis responsable dans un premier temps, mais cette hypothèse a été beaucoup perfectionnée dans la suite par Alberto Cantera et son école de Salamanque, et les interventions successives, je l'ai dit chronologiquement de moi-même en 98 et celle de Cantera depuis lors, font qu'aujourd'hui, cette conception est en train de s'imposer simplement parce que, ici aussi on peut s'étonner, pourquoi pas plus tôt, Mary Boyce me l'avait écrit, à la sortie de mon article, on se demande pourquoi ça n'est pas apparu plus tôt. Mais l'Avesta, ce n'est pas un débris. C'est quelque chose qui a été soigneusement assemblé à date très ancienne, à l'époque où l'on rédigeait encore des textes en avestique. Certainement, je n'ai pas de date très précise, je la cherche, je ne l'ai pas trouvée, mais je vous dirais que les textes que nous avons, ce sont deux liturgies, rien d'autre. Oubliez la notion de livre sacré. Ce n'est pas un livre sacré, rien du tout. Rien de tout ça. Comme les hymnes du Rig Veda, dont Fritz Stahl disait, le Rig Veda, c'est tout ce que vous voulez sauf un livre. Nous en avons fait un livre, en l'éditant et en l'imprimant. Mais ce sont deux récitatifs liturgiques, qui ont été assemblés dans un but liturgique. Vous voyez pourquoi l'hypothèse du ritualisme aussi a pris dessus. Ce sont, dès l'abord, des collections liturgiques. On ne peut pas nier ce fait-là. Ces collections liturgiques sont très anciennes. Elles remontent au VIe, peut-être VIIe siècle, avant notre ère. Et elles ont traversé le temps. Ces liturgies existent depuis environ 2500 ans aujourd'hui. Leur composition textuelle a pu varier, des détails. La répartition des moments liturgiques sur les moments de la journée a varié, nous le savons. Nous avons des variantes, certaines nous ne les connaissons pas, peut-être même. Donc, il y a eu certainement des variantes de ce rite ont pu exister, mais une base est permanente, c'est que le centre de la grande liturgie est le yasna, le livre dit du yasna. C'est-à-dire ce livre qui contient en son centre l'Avesta ancien, Gatha et Yasna Haptankaiti. Je vous disais, la composition textuelle peut varier, oui, parce que le visprat peut être intercalé. Et le videvdat aussi peut être intercalé. Alors, c'est en quelque sorte un rite télescopique. Naturellement, l'insertion des textes est motivée par des buts spécifiques. Voilà la composition maximale, les trois livres qui composent ce que j'ai appelé la liturgie longue. C'est une liturgie unitaire et elle doit durer. Je crois que Alberto Cantera a chronométré environ 7 heures. Mais on peut toujours réciter plus lentement, réciter plus vite, omettre. La durée est extrêmement relative, on peut la manipuler. Mais donc une liturgie longue et unitaire, ces trois livres. Quant au Yasht et au Cordé Avesta, c'est en soi une anthologie, c'est une collection de rites mineurs. Les Yasht sont les hymnes pour les dieux autres qu'Ahura Mazda. À partir d'une certaine époque, comme nous l'avons vu l'an dernier, ces hymnes seront les récitatifs des sacrifices quotidiens, dès le moment où les dieux donnent leur nom à un jour du mois. Leur texte servait de rite pour le jour correspondant. Donc, c'est en soi une anthologie. Mais voyons bien que si même la liturgie longue, centrée sur le yasna, est un rite unitaire et long, c'est aussi une anthologie. Ce sont des textes d'origine diverse et d'âge divers qui sont assemblés. Les plus anciens, c'est le cœur. C'est l'omphalos du yasna. Gatha et yasna haptankaiti, ce que pour des raisons linguistiques, nous appelons l'Avesta ancien. Alors, nous oublions l'idée de livre sacré. Nous avons recueilli là, à travers le temps, ça défiait le temps, c'est assez extraordinaire, mais deux liturgies très anciennes, dont ces textes sont ce qu'ils sont pour nous depuis longtemps. Naturellement, tous les autres textes qui n'ont pas été réunis dans cette double liturgie étaient condamnés. Ils étaient condamnés. Nous n'avons recueilli que les textes qui ont servi liturgiquement, qui ont été sélectionnés pour cela à une date très ancienne. Ça modifie très fort la perspective. Nous n'avons pas un livre débris, nous n'avons pas un livre sacré. Nous avons deux liturgies parfaitement respectées et immuables depuis des temps très anciens. C'est autre chose. C'est dans cette perspective que nous devons situer les textes. Alors, je reviens à la question. Qui a édité l'Avesta ancien sous la forme qu'il a dans le Yasna? Nous pouvons maintenant bien cerner la fourchette temporelle qui est possible. Eh bien, au plus tôt, par l'auteur lui-même, comme le dit Hinz. Au plus tard, par l'arrangeur du Yasna, en même temps que l'on assemblait les textes qui composent le Yasna, on a pu sélectionner les gathas et leur donner leur place et leur ordre d'énumération. Certainement. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je peux donc répondre très vite, n'est-ce pas ? Nous pouvons répondre très vite aujourd'hui à l'argumentation de Hinz. Ce n'est certainement ni l'auteur ni l'arrangeur du Yasna. Nous devons envisager une situation intermédiaire. Situation intermédiaire qui complique la situation, notez, hein. Ça complique les choses, vous allez le voir. Je crois que les arguments sont très simples. Très simples, ils sont imposants, on ne peut pas les nier. Bon, d'abord, le premier point, j'exclus l'auteur. J'exclus l'auteur parce que certains textes les plus anciens de l'Avesta récent, que l'on nomme d'ailleurs parfois moyen-avestique, pour leur donner leur spécificité par rapport aux autres textes de l'Avesta récent, mais entre Avesta récent archaïque et moyen-avestique, c'est un peu la même chose. Mais j'entends par là essentiellement le Yasna 12, le 12e chapitre du Yasna, chapitre 56 et le chapitre 58. Ce sont certainement les textes les plus archaïques de l'Avesta récent. Eh bien, ces trois chapitres font la citation de textes vieil-avestiques que nous n'avons pas. Ils avaient donc encore accès à d'autres. Les auteurs de ces textes avaient encore accès à des textes vieil-avestiques que nous n'avons plus, qui ne se trouvent pas dans la liturgie qui nous est parvenue. Donc la matière vieil-avestique n'est pas fixée. N'est pas fixée quand les plus anciens textes de l'Avesta récent sont composés. Ce qui semble exclure, n'est-ce pas, la sélection par l'auteur lui-même. Sinon, tous les textes qu'il n'avait pas sélectionnés ne nous seraient pas parvenus. Alors, ça ne peut pas être non plus les arrangeurs du Yasna. Pour une raison de transmission, je vais vous l'expliquer la plus simplement possible, mais je dois faire appel à de petits phénomènes phonétiques. Je prends l'exemple le plus simple possible. Il existe en sanskrit une préposition qui indique le mouvement en direction de quelque chose et qui est abhi, vers quelque chose, droit vers quelque chose. En iranien commun, cette préposition doit être représentée par abhi, selon la règle phonétique qui veut que l'occlusive sonore perde son aspiration. C'est un des traits caractéristiques de l'iranien par rapport à l'indien. Donc, on attend abhi. Tout nous laisse penser que pour les auteurs de l'Avesta ancien et pour les auteurs de l'Avesta récent, cette forme était toujours en usage, cette forme-là. Oui. Or, dans le corpus avestique que nous possédons, cette préposition apparaît dans les manuscrits sous la forme aibi dans les gathas, dans l'Avesta ancien. Que s'est-il passé ? Deux phénomènes qui se sont développés dans le cours de la transmission orale. Ce sont deux modifications phonétiques dont est responsable l'élocution liturgique. Ça n'appartient pas à la langue de départ pour l'auteur des gathas ou du Yasna Haptankaiti. C'était cette forme-là, hein, il utilisait cette forme-là. Alors, les deux phénomènes, c'est cette marque purement graphique, probablement très tardive, de l'allongement systématique des voyelles finales. Bon, phénomène connu. Et alors, un phénomène que l'on appelle les panthèses, c'est-à-dire que la voyelle d'une syllabe produit une sorte de réflexe dans la syllabe précédente. Hein, ce sont deux traits qui se développent lors de la transmission orale. Mais comme vous le voyez, la consonne est préservée. L'occlusif sonore intervocalique est préservé. Dans l'Avesta récent, par contre, la forme est représentée par aïoui. Alors, vous observez, il y a aussi l'épenthèse est présente aussi, il y a aussi ce réflexe de la seconde syllabe dans la première, mais l'occlusive sonore est spirantisée, elle n'est pas conservée. Alors, ce n'est pas la seule forme. Je peux présenter les choses de cette manière-ci. Si je fais on peut penser qu'à un moment donné, nous trouvons l'aspirante. Hein, l'épenthèse est secondaire. Mais aoui apparaît sous deux formes dans l'Avesta récent. Aoui et aoui. Ce sont deux développements différents. C'est ce qui nous permet d'établir d'ailleurs que l'épenthèse est secondaire, parce qu'elle ne peut se développer que si l'aspirante se maintient, mais si elle se spirantise à fond, l'épenthèse ne peut pas se produire. C'est-à-dire que l'épenthèse est possible à travers ce que nous transcrivons comme bêta, mais elle n'est pas possible à travers les deux U. Bon, ça, c'est l'arbitraire de la prononciation liturgique, on n'y peut rien. Alors, d'ailleurs, pour continuer l'histoire, plus tard, mais à une date très, très récente, hein, certainement au cours de ce millénaire, la forme de la récitation liturgique a été transcrite de cette manière dans les manuscrits. Alors, je vais tirer de ceci une conclusion, me semble-t-il. Conclusion est imparable de ceci. C'est que, vous voyez que les gens de l'Avesta récent, hein, les gens de l'Avesta récent, la transmission de l'Avesta récent a permis la dégradation de la prononciation de l'occlusif sonore intervocalique. Les textes de l'Avesta récent ont évolué, mais la même transmission a respecté l'occlusive sonore qui se trouve dans les textes gathiques. Cela signifie une chose, c'est que les gens de l'Avesta récent étaient en possession d'un corpus ancien, l'Avesta ancien, qui avait déjà ses règles de transmission. Ces règles de transmission orale. Ils ont respecté ces règles de transmission. Donc, c'est un phénomène que je sais que le mot ne figure pas dans les dictionnaires, ça a été créé sur le grec, n'est-ce pas? Mais c'est le mot, nous utilisons le mot diasévase pour cela. C'est un mot qui est ressorti seulement à la pratique des philologues de l'indo-iranien. C'était repris au grec diaskeuasis par Hermann Oldenberg au début du XXe siècle. Et le terme a été repris par Karl Hoffmann qui me l'a transmis. Bon, la diasévase, c'est-à-dire que c'est le soin que l'on a apporté à la transmission du texte, à établir sa prononciation, à simplement veiller à ce que l'ordre de ces mots ne soit pas modifié. Donc, tout le soin de transmission orale est inclus dans ce mot diasévase. Donc, nous pouvons conclure de ce qui précède, de la manière différente dont la prononciation du vieil avestique a été protégée par rapport à celle de l'Avesta récent, que les gens de l'Avesta récent ont déjà hérité d'une diasévase opérée sur les textes vieil avestiques. Nécessairement, cette mise en forme, ce que j'appelle entre guillemets, bien sûr, parce que c'est un terme qui ne convient pas à une tradition orale, n'est-ce pas, ce que j'appelle l'édition des gathas, ça ne peut pas être l'auteur. Nous n'aurions pas trace d'autres textes vieilles avestiques. Ça ne peut pas être non plus les arrangeurs du Yasna comme tel, parce qu'ils montrent qu'ils avaient déjà recueilli une diacévase du texte. Nécessairement, c'est entre les deux. Et je vous dis, ça ne simplifie pas les choses. Ça ne simplifie pas les choses parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé, à quel moment. Nous ne connaissons pas l'histoire véritable de la tradition avestique. Il nous manquera toujours... il y a un creux documentaire, n'est-ce pas ? C'est ce qui se passe entre les Gatha et l'Avesta récent. Alors, voilà ce que je voulais, ce cas-ci, vous faire remarquer que cette nouvelle conception de l'Avesta nous permet une réflexion sur un certain nombre de phénomènes. Alors, pourquoi ? Quelle importance les rédacteurs de l'Avesta récent accordaient-ils au texte vieil avestique ? Nous le savons mieux aussi maintenant, nous le savons mieux. Voici maintenant quelques années que je me livre à cet exercice avec vous. Les auteurs de l'Avesta récent ont développé une exégèse qui établit que l'Avesta ancien fait le récit de l'histoire cosmique, raconte l'histoire du monde, depuis la cosmogonie jusqu'à la fin des temps. Et le récit établi par l'Avesta ancien qu'ils considèrent, eux, non pas comme l'œuvre de Zarathoustra, mais comme un dialogue entre Ahura Mazda et Zarathoustra. Donc, certainement, Zarathoustra est partiellement l'auteur, partiellement il ne l'est pas. C'est une œuvre en alternance entre le dieu et l'homme Zarathoustra. C'est la conception que les auteurs de l'Avesta récent, c'est la plus vieille exégèse, la plus vieille conception des Gatha que nous pouvons imaginer. Ce sont ces gens peut-être du VIe siècle avant notre ère. Ils en ont une conception parfaitement philosophique et savante. Pour eux, ce n'est pas un souvenir de l'histoire, ce n'est pas un texte historique. Ce n'est pas le souvenir vivant du fondateur, les Gatha. Ce ne sont pas non plus des mythes au sens le plus obvi du terme. Secondairement, ça peut donner naissance à des mythes. Mais ce n'est ni historique ni mythologique, c'est autre chose. C'est une philosophie de l'histoire. Zarathoustra, c'est le maillon d'une philosophie de l'histoire. Il n'y a pas pour eux un homme ou une légende derrière tout ça. Non, c'est la figure emblématique qui explique la place de l'homme dans l'histoire du monde depuis la cosmogonie jusqu'à la fin des temps. Alors, nous voyons mieux ce que sont les Gathas. C'est un texte réutilisé. C'est un texte réutilisé par les rédacteurs de l'Avesta récent. Il est réutilisé comme les hymnes du Rig Veda l'ont été dans ce grand réaménagement des pratiques qu'ont été les Brahmanas en Inde. C'est exactement la même situation, n'est-ce pas ? Les hymnes védiques sont des hymnes que nous avons conservés parce qu'ils ont été réutilisés par la réforme brahmanique. C'est un texte qui est déjà interprété. C'est un texte déjà interprété dans le sens d'une philosophie de l'histoire du monde. Et alors, surtout, réutilisé, je devrais dire, désarrimé. Désarrimé. Il entre, sa réutilisation, c'est le faire entrer dans le cadre d'un rituel nouveau. Mais à quoi servait ce texte avant ? Pour les hymnes de Rig Veda, nous ne le savons pas non plus. Quel était le cadre de l'utilisation des hymnes védiques ? Nous ne savons pas. Pour les Gathas, c'est la même chose. Mais nous avons une chance avec les Gathas, que nous n'avons pas toujours avec les hymnes védiques. Les Gathas, elles peuvent être longues, sont beaucoup plus longues. Alors, ça permet peut-être de mieux voir, c'est pas le mouvement qui s'y dessine, le but, la motivation qu'il y a derrière le texte. C'est ce qu'on va faire. À partir de maintenant, c'est ce que je vous propose de faire cela ensemble. Nous allons essayer, nous allons oublier la réutilisation récente et nous allons tenter de faire de l'archéologie textuelle ou rituelle, si vous voulez, et tenter de voir à quoi pouvaient correspondre les Gathas comme telles à l'époque même de leur composition. Que pouvaient-elles être ? Dès lors, on va essayer de dépasser le désarrimage. On va essayer de voir ce qu'il y a avant cela. Et alors, nous allons vérifier les choses. Nous allons commencer par le rituel et l'eschatologie. Je vous ai dit dans mon introduction que lorsqu'on lit les auteurs, on se rend compte que c'est tout de même une situation étrange, parce que le rituel et l'eschatologie sont introuvables textuellement dans le texte d'Hégata. On peut dire qu'elles ne sont pas rituelles, aucun acte rituel n'est posé pendant la récitation. On peut y voir un texte essentiellement rituel, tout ou rien, pourquoi ? On va vérifier cela. L'eschatologie de même, on a nié, à l'époque où Pirard et moi avons produit des textes vieil avestiques, la mode était à la sous-estimation de l'eschatologie. Nous avons changé d'avis, comme je vous le disais. On l'avait certainement surestimé auparavant. Pourquoi ? Pourquoi ce tout ou rien, là aussi, est-il possible ? Nous allons essayer de faire le point sur ces questions-là. Alors, je voudrais, pour en terminer, pour terminer votre information à ce sujet-là, je vous avais dit que l'introduction au texte vieil avestique souffre du fait que nous avons changé d'avis sur l'eschatologie. C'est pourquoi j'ai ajouté à la bibliographie le petit fascicule de Zoroastre et l'Avesta ancien qui est paru en 91 et qui représente le texte de quatre cours que j'étais venu faire dans cette maison à la fin de l'année 89, il y a 22 ans donc, et où j'avais pu réintroduire ma nouvelle conception de l'eschatologie. C'était donc une mise à jour dès le départ de ce qui figure malheureusement dans l'introduction au texte vieil avestique. Alors je voudrais vous dire rapidement, j'ai donné aussi le Zoroastre Essay on Zoroastre and Zoroastrianism. Je vous ai donné le texte parce qu'il est peut-être plus facile à trouver, si l'anglais ne vous gêne pas, que Zoroastre et l'Avesta ancien, et c'est une traduction anglaise de Zoroastre et l'Avesta ancien. Et c'est un livre qui, je crois, est encore distribué aujourd'hui, mais malheureusement, c'est une édition américaine, et il est parfois très difficile en Europe de se les procurer. Bon, à tout hasard, je vous ai donné ces textes. Alors, je voudrais, pour que les choses soient bien claires à ce sujet, ce que nous allons faire ensemble, c'est vérifier les chapitres 3 et 4. Le programme que je viens d'établir, ça équivaut à une vérification des chapitres 3 et 4. Je ne suis pas en désaccord profond avec les chapitres 3 et 4, mais c'était débroussaillé. J'ai débroussaillé la question, je pense, pas plus. Nous allons essayer d'être plus précis sur ces questions. L'enquête que je vous propose correspond à cela. Tenter de préciser ce qu'il y a dans les chapitres 2 ou 3. Les chapitres 1 et 2, le système, ils peuvent être lus tels quels, à ceci près que ce que je commence par exposer dans la toute première leçon, et je viens de vous expliquer que ça n'est plus aujourd'hui notre conception, c'est l'hypothèse de l'Avesta, livre sacré, livre d'Hébrie. Je reproduis à cette époque l'opinion que j'avais, comme tout le monde d'ailleurs, n'est-ce pas, c'était l'opinion que Hoffmann avait, c'était la conception que Hoffmann se faisait de la transmission, des textes avestiques, qui étaient à ce moment-là, c'est un très bel échafaudage, hein, Hoffmann, ne faites pas dire du mal de ce qu'il a fait, c'est une œuvre exceptionnelle, n'est-ce pas, tellement impressionnante que tout le monde était d'accord, et ce n'est que quelques années plus tard, en présentant un cours ici, que je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher, et qu'une autre conception de la transmission avestique s'est manifestée. Donc là, certainement, c'est sur cet aspect des choses il ne faut plus le prendre comme si c'est pour de l'argent comptant. Alors pour en terminer avec la bibliographie, vous apercevrez que j'ai, parce que c'est un livre qui se trouve facilement et qui n'est pas cher, j'ai pour les curieux, et je dis, signalé le livre d'un certain Khosrau Kazai Pardis, qui a tenté une traduction des Gatha. Cette traduction des Gatha, j'ai mis pour les curieux parce que il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas une traduction scientifique, loin de là. Ce n'est certainement pas du tout le texte des Gatha que vous y lirez, et les considérations sur l'histoire du texte avestique sont extrêmement confuses. C'est donc un livre qu'il ne faut pas lire pour cela. Mais il est intéressant de le lire pour une autre raison. C'est un livre qui vous montrera quelle conception un zoroastrien d'aujourd'hui peut se faire du livre gathique. C'est un livre indépendant de la traduction savante et c'est une tentative de donner un sens à l'intérieur du zoroastrisme, à un texte zoroastrien. C'est cela son intérêt. Quoique, on peut certainement le dire, c'est une tentative intéressante dans la mesure où les zoroastriens sont dépendants de la tradition savante, puisqu'ils se réfèrent, c'est quasi un schisme, soit à la traduction de Stanley Insler, soit à la traduction de Humbart et Chaporia, qui figure aussi dans la bibliographie. Mais une troisième branche déplore qu'il n'y ait pas une interprétation proprement zoroastrienne du texte de fondation. Alors voilà, il faut prendre ce livre pour ce qu'il est, hein, et chercher une information sur l'interprétation que l'on peut avoir dans une tradition religieuse vivante, hein, du vieux texte que nous nous approchons scientifiquement. Alors, je n'aurai pas le temps d'en terminer, mais on va entamer cela. Je voudrais vous faire d'abord, avant d'entamer nos vérifications, une petite présentation très naïve de ce qu'est le corpus gathique. Et d'abord, comment se présente-t-il ? Trois caractéristiques sont apparentes. D'abord, l'ordre dans lequel les gathas sont classés. Désormais, nous avons notre présentation, hein. Les gathas sont un ensemble, c'est une unité, chaque haïti est une sous-unité. Bon, eh bien, chaque gatha, donc l'unité principale, hein, les gathas sont rangés dans un ordre décroissant. Ordre décroissant. La plus longue d'abord, il y en a cinq, la plus longue ainsi de suite, jusqu'à la plus courte. Ça paraît volontaire. Il y a une tendance remarquable, qui n'est pas respectée en permanence, à composer des sous-chapitres, des sous-unités, des haïti donc, de 11 strophes. De 11 strophes. Beaucoup de haïti comportent 11 strophes ou un multiple de 11, 22 strophes par exemple. 22 strophes, c'est le maximum. 11 strophes, le minimum, sauf à l'exception de la Haïti 47, qui est anormalement brève et qui ne comporte que 6 strophes. Mais en dehors de cette Haïti, le nombre de strophes oscille toujours entre 11 et 22, toujours. Donc, un ordre décroissant. Deuxième caractéristique, le conservatisme phonétique. Je ne m'attarde pas sur cette caractéristique. Nous venons d'en parler. Conservatisme phonétique par rapport à l'Avesta récent lui-même. Mais il faut donc se méfier. Hein. Il faut se méfier parce que, à côté de ce conservatisme évident, la préservation des occlusives intervocaliques, nous avons l'apparition de traits, parfois complètement arbitraires, parfois très récents, parfois très innovants. L'allongement systématique des voyelles finales, ou bien le développement de certaines déformations vocaliques. Les panthèses en est une, mais il y en a d'autres. Alors, le troisième trait, ce sont des poèmes. C'est une métrique étrange, qui a beaucoup intrigué, car elle est purement syllabique. Seul compte, dans la métrique gathique, le nombre de syllabes. Comme en français, si vous voulez, mais sans la rime. Or, ceux d'entre vous qui sont familiers avec les anciennes poésies indo-européennes, le latin, le grec ou le sanskrit védique, savent qu'il y a autre chose. Hein. Il y a le rythme, il y a l'alternance entre les voyelles longues et les voyelles brèves. Il n'y a pas trace de régularité dans cette alternance dans le texte gathique. Il y a aussi le schéma accentuel, hein, la réapparition des accents en certaines positions, on n'a rien pu déterminer de ce côté-là non plus. C'est donc une étrange métrique purement syllabique, fondée exclusivement sur le nombre des syllabes. Les irrégularités métriques de surcroît paraissaient extrêmement nombreuses avant la loi de Kuiper, avant la loi de Kuiper, 1958. Kuiper établissant que l'ancienne laryngale indo-européenne se maintenait sous forme d'hiatus en position intervocalique. Voilà donc les caractéristiques de cette littérature. Je ferai un rapide examen de chaque gatha avec quelques observations toujours aussi très rapides. Ce sera rapide et bref, ce sera naïf. Hein. C'est l'impression que cela donne au premier abord. Et puis, nous lirons la première strophe à titre d'exemple afin de mettre en lumière quels sont les problèmes que nous devons affronter pour comprendre le texte des gatha. Puis nous procéderons aux vérifications que je vous ai proposées. Je vous remercie de votre attention. Merci.